Bon, je suis ravi de vous voir tous ici, très nombreux ce soir, et pour préparer cette venue, la venue de Jean-Yves ici présent, j'ai retrouvé ce petit ouvrage qui s'appelle « Stardust » ou « La dernière frontière ». C'était une exposition que certains d'entre vous ont peut-être vue, qui était au MacVal. Ce musée MacVal, c'est donc le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Et c'était une Stardust ou la dernière frontière, c'était consacré donc à la manière dont les artistes anticipent, voient, fantasment autour du cosmos depuis autant de décennies qu'ils sont comme tout le monde, ils voient qu'on découvre et on explore l'espace. Et donc c'était une très très intéressante et très belle exposition. Et le commissaire de l'exposition avait introduit son ouvrage en disant des choses qui sont certaines banales, mais d'autres intéressantes. En particulier, il notait que le 4 octobre 1957, c'était Spoutnik, bip bip. Le premier vol spatial habité, 12 avril 1961, c'était Yuri Gagarin. Le 21 juillet 1969, Armstrong marchait sur la Lune, et on continue à expliquer pas mal de choses, tous les programmes, etc. Et il dit « L'espace est un extraordinaire moteur fantasme, une usine à rêves, l'a été et le sera. » Ça, c'était il y a déjà quelques années. Et depuis, on a effectivement assisté à beaucoup d'émerveillements, on a participé à d'autres explorations qui n'étaient pas encore en route à l'époque où cette exposition a eu lieu, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est déjà 6 ou 7 ans. Voilà, et ça explique pourquoi, une des raisons pour lesquelles nous avons pensé donc convoquer un conférencier pour nous parler de l'espace et surtout du futur, c'est-à-dire quelle sera la politique de l'espace dans les années à venir. Et pour moi, c'est vraiment un très grand plaisir d'accueillir ici Jean-Yves Le Gall, pour nous parler donc de ces défis. Alors je vais présenter très, très brièvement Jean-Yves. Je suis allé regarder un petit peu sur Internet tout ce qui s'est dit sur lui, donc c'est tout ce que j'ai imprimé. Je ne vais peut-être pas vous lire tout ça, hein. Simplement quelques mots. Sachez que depuis 2013, Jean-Yves Le Gall est président du CNES, Centre National d'Études Spatiales. Vous savez, le CNES, c'est pas... C'est très important dans la mesure où le CNES est chargé de proposer et de mettre en œuvre la politique spatiale de la France. Donc c'est une lourde tâche que de diriger un établissement de ce genre. Il intervient dans tous les secteurs de l'activité spatiale, pas seulement l'astronomie, mais Ariane, donc les lanceurs, la science, bien sûr, mais aussi les observations, les télécommunications et même la défense. Donc... En ce qui concerne Ariane Espace, par exemple, puisque Jean-Yves a été donc est maintenant à cette fonction de président du Centre national d'études spatiales, il a commencé, il s'est intéressé au spatial très très tôt, et il a été en poste au Centre national de la recherche scientifique, dans plusieurs ministères français, en particulier Novespace, et au CNES, il a été PDG de StarSem. Alors je me suis demandé ce que c'était que StarSem. C'est une société européenne qui commercialise les lanceurs Soyouz sur le marché international. C'est vrai que depuis quelques années, sur Kourou, on utilise des lanceurs Soyouz indépendamment et à côté, en complément, des lanceurs Ariane. Il rejoint Ariane Espace, alors je n'ai pas la date, je crois que c'est en 2001. Ensuite, il en devient le président. Et c'est déjà, on voit tout ce qui s'est passé depuis cette époque, puisque en particulier autour d'Ariane 5, Ariane 5 a enregistré 63 succès d'affilée. Donc c'était vraiment... Il continue d'ailleurs à fonctionner. Et après le succès d'Ariane 5, eh bien, il y a un autre projet, enfin, on va toujours de l'avant, en particulier avec Ariane 6, et dès 2014, donc je pense peut-être que Jean-Yves en parlera, mais enfin dès 2014, c'est-à-dire après, donc, après l'arrivée de Jean-Yves Le Gall donc, au CNES, eh bien, la France est engagée dans le projet Ariane 6 et qui sera en fonction, qui devrait être lancé pour la première fois en 2020. Alors, bon, ça c'est pour l'aspect lanceur. Pour l'aspect scientifique, bon, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé récemment, du succès de la mission Rosetta et Philae. On en a encore parlé la semaine dernière. Voilà, et voilà donc le rôle que va continuer à avoir Jean-Yves Le Gall donc à la tête du CNES. C'est donc une mission extrêmement importante, un rôle extrêmement fondamental dans la politique spatiale de la France. Et sinon, je pourrais dire énoncer toute une série de prix qu'il a obtenus, mais je vais pas le faire. Simplement, en 2014, il a obtenu, je terminerai par cela, le magazine Aviation Week Space Technology qui lui a décerné son prix. Voilà. Donc moi, je suis vraiment très content d'accueillir Jean-Yves aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'ai appris, alors j'ai regardé quand même des choses un petit peu moins officielles que ça, en particulier le débat qu'il y a eu en commission, avec une commission parlementaire lorsqu'il a été nommé au CNES. C'est extrêmement intéressant, on voit tous les arguments, toutes les questions auxquelles on doit répondre, c'est en ligne, vous trouverez cela, je vous conseille de regarder. Et puis, j'ai trouvé d'autres choses, en particulier une interview par le Journal du Dimanche, ça date de 2013. Et là, j'ai appris que, bien, indépendamment de ses fonctions, qui sont des fonctions extrêmement prenantes, qui l'obligent à parcourir la planète plusieurs fois par mois, eh bien, il écoute aussi les Stones, comme tout le monde, il aime la musique, il a des activités en parallèle. Et une de ses intérêts, ses horizons, concerne non seulement le vieux port de Marseille, là où il a grandi, mais les Stones et IAM sur son iPod. Voilà, ça c'est un rappeur que certains d'entre vous connaissent peut-être. Voilà, je termine cette présentation. Merci Jean-Yves, à qui je vais maintenant donner la parole.
Bien. Non, j'espère que ça marche.
Ça marche ?
Oui, ça marche. Vous m'entendez ? Oui, sans doute. Voilà. Bien. Ben merci, Daniel. Ce que Daniel ne vous a pas dit, c'est qu'il m'a initié à l'astronomie, puisque nous sommes allés faire des observations au Chili, à l'European Southern Observatory, en février 1984, donc il y a bientôt 33 ans. Voilà, ce qui fait quand même un certain temps. Voilà, donc je suis très content de venir parler ici ce soir parce que, à l'évidence, c'est un public enthousiaste, ça se voit, ça me change, parce que parfois j'ai des gens qui sont plus compliqués, disons, et un public de passionnés, parce que vous venez ici, personne ne vous y oblige, donc c'est très bien. Et donc, pour commencer peut-être, je dirais quelques mots qui ne sont pas dans l'exposé qui est là pour donner les grandes lignes de ce qu'est le CNES, parce qu'on ne le sait pas forcément. Donc, bon, le CNES, c'est l'établissement public qui propose et met en œuvre la politique spatiale. Donc, c'est un établissement public avec un budget de l'État. Il y a 2500 personnes dans 4 centres, un siège à Paris qui est... J'espère qu'il n'y a personne du siège ici, mais qui est le moins important, où il y a 190 personnes, une direction des lanceurs dans le 12e arrondissement de Paris, pas très loin d'ici, où il y en a 300. Le cœur du CNES, c'est à Toulouse, où il y a 1700 et quelques personnes, 78% de notre effectif. Puis nous avons un centre de lancement que tout le monde connaît, c'est Kourou, bien sûr, d'où partent les lanceurs, Et jusqu'à il y a 2 minutes, j'espérais qu'il y ait un lancement d'Ariane ce soir, mais je viens d'apprendre que la météo est rouge, donc ça sera sans doute pour demain soir. Ça fait partie des aléas du métier. Et donc, ce que fait le CNES, eh bien, vous le savez, bon, les lanceurs, je crois que tout le monde connaît Ariane, la science, on en a encore parlé récemment, l'observation de la Terre, tout le monde est familier avec des images de satellites aujourd'hui, et beaucoup d'images de Google Earth viennent de satellites du CNES. Les télécommunications, lorsque vous utilisez votre smartphone pour telle ou telle application, il y a de grandes chances qu'à un moment dans la chaîne, ça passe par un satellite, et puis la défense, parce que si aujourd'hui on peut faire des opérations comme on fait à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des satellites d'observation ou d'écoute qui permettent de voir ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est le CNES. Alors après, il y a un fonctionnement compliqué en France, en Europe. À côté du CNES, il y a une agence spatiale européenne à laquelle participent 22 États européens. Il y a les industriels, bien sûr, qui fabriquent les satellites, des grands noms, Airbus, Thales. Les fusées aussi, Ariane est fabriquée par l'industrie. Et l'ensemble fait un écosystème typiquement pour fixer les idées. Il y a 16 000 personnes qui travaillent dans le spatial en France, dont, comme je l'ai dit, 2500 au CNES, et en Europe, 40 000, parce que ce sujet est européen. Et aujourd'hui, et c'est le titre de cet exposé, nous sommes confrontés à une évolution extrêmement rapide, parce que, on a l'habitude de dire, dans tous les segments de la société, ça change, le numérique, il faut aller très vite, et le spatial est un terrain où, justement, ça change très très vite, et où nous sommes pris en tenaille, j'ai envie de dire la vieille Europe, est prise en tenaille entre des pays émergents, qui font du spatial, alors qu'ils n'en faisaient pas il y a 5 ou 10 ans, les Émirats, l'Azerbaïdjan, l'Inde, le Vietnam, et puis ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire un mouvement qui vient des États-Unis, où des gens qui ne sont pas dans le spatial canal historique, en quelque sorte, se mettent à faire de l'espace. C'est-à-dire des gens qui viennent du monde d'Internet, des applications, des choses comme ça. Et pris en tenaille, eh bien, tout le sujet aujourd'hui du spatial en France, en Europe, c'est d'arriver à évoluer pour ne pas être écrasé parce qu'on est pris en tenaille. Donc c'est le titre de l'exposé, entre New Space et émergent, le double défi de l'Europe spatiale. Alors, on va essayer de faire marcher. Voilà. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que donc, nous sommes dans un environnement qui évolue très vite. Daniel a rappelé les grandes dates que tout le monde connaît dans l'espace, donc 4 octobre 1957, on n'a pas choisi la date exprès, mais c'est l'anniversaire, donc le 59e anniversaire du premier lancement de Spoutnik, dont tout le monde se connaît, se souvient, les jeunes et les moins jeunes. C'est Spoutnik qui a fait que, si aujourd'hui on parle de bip bip, c'est parce que Spoutnik, le premier, faisait bibi. Donc ça, c'est l'Union soviétique, 4 octobre 1957. Ensuite, le premier homme à être allé dans l'espace, c'est Gagarine, 12 avril 1961. Il avait été précédé par la chienne Laïka, mais qui, à la différence de Gagarine, elle n'est pas revenue. Gagarine est revenu, et ensuite, malheureusement, il est mort quelques années plus tard dans un accident d'avion. Le débarquement lunaire, bien sûr, 21 juillet 1969, et puis ensuite un certain nombre de dates qui émaillent la vie de l'astronautique. Mais donc aujourd'hui, on est au niveau mondial dans ce que j'appelle un nouvel ordre spatial qui est en train de s'établir. Donc il y a les grandes puissances spatiales qu'on connaît, donc les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie. Donc ça, c'est les 6 grands historiques, avec un très très grand, les États-Unis. Je vous ai dit que le CNES avait un budget de 2 milliards d'euros à peu près. Les États-Unis, en 2016, ont un budget, le budget de la NASA 2015, 17 milliards de dollars, et ils sont passés à 19, ce qui veut dire que le budget de la NASA en 2016, c'est la NASA en 2015 plus le CNES. Ça donne une idée de la façon dont ça augmente. Mais néanmoins, bon, nous sommes quand même en deuxième position. Donc on voit bien les six grandes puissances spatiales un peu historiques. Des pays émergents, alors des pays émergents riches, les Émirats. Les Émirats arabes unis ont de l'argent, donc ils ont décidé de se payer des satellites de télécommunication très performants, des satellites d'observation de la Terre très performants. L'émir des Émirats avait demandé qu'on lui donne quelques idées sur la meilleure façon de fêter le 50e anniversaire de l'indépendance des Émirats le 2 décembre 2021. Et parmi les différents projets qu'on lui a proposés, il y avait l'idée de festivités qui seraient démarrées par un tweet envoyé d'une sonde émiratée en orbite de Mars. Donc comme ils ont de l'argent, qu'à cela ne tienne, il y a une sonde qui s'appelle HOPE pour Espoir, qui est en cours de développement, qui sera lancée en 2020, qui sera en orbite autour de Mars en 2021. Donc le 2 décembre 2021, si tout va bien, il y aura un tweet venu de Mars qui déclenchera un feu d'artifice qu'on appelle la mère de tous les feux d'artifice, parce qu'il paraît-il qu'il sera absolument géant, semble-t-il. On commence déjà à préparer la poudre. Bon, ça donne une image, mais c'est la réalité. De même façon, l'Azerbaïdjan, qui est une sorte d'émirat aussi sur la mer Caspienne, a décidé de se doter de moyens de télécommunication, d'observation. De l'autre côté du spectre, on a des émergents moins riches, le Vietnam, le Pérou, mais qui veulent quand même faire de l'espace parce qu'ils ont bien compris que faire de l'espace aujourd'hui, d'abord, ça pose. On a un satellite de télécommunication, ben, on se différencie de ses voisins qui, eux, n'en ont pas. Et puis, c'est utile, le Vietnam par exemple, jusqu'à ce que nous lancions des satellites de télécommunication. Je ne sais pas si vous avez une idée de la géographie du Vietnam, mais entre Hanoï et Ho Chi Minh Ville, en bas, il y a 1800 km, je crois. Donc, c'est un pays tout en longueur et il n'y avait pas la télé partout parce que ça demande des réseaux terrestres très compliqués. D'en lancer deux satellites, évidemment, les gens mettent une parabole sur leur fenêtre et ils ont la télé partout. Voilà. Et de la même façon, on peut envoyer des satellites pour l'observation de la Terre aussi, parce qu'on peut gérer les récoltes, regarder ce qui se passe. Bon, regardez aussi ce que fait le voisin, ça peut servir s'il a envie de vous envahir. Mais donc, il y a une utilité. Et donc, on voit bien que ce nouvel ordre spatial, les six puissances historiques qui ont de l'argent, qui ont des programmes, des gens qui arrivent avec de l'argent et qui se mettent à exister et qui viennent de facto faire de la concurrence aux gens qui existaient auparavant, et puis des gens qui ont moins d'argent, mais qui se mettent aussi à exister parce que s'ils ont moins d'argent, ils ont aussi un niveau de vie plus bas et donc ils peuvent faire des choses moins chères. Et notamment les opérateurs de télécommunications qui sont basés au Vietnam, en Malaisie ou dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, eh bien, peuvent entrer en compétition avec les opérateurs de télécommunications qui sont basés dans des pays plus riches et donc, évidemment, font des difficultés. Donc ça, c'est le premier point, nouvel ordre spatial au niveau des États. Deuxième point, je vous ai parlé du New Space. Jusqu'à un passé récent, le spatial, c'était la marotte de quelques passionnés, des ingénieurs scientifiques qui développaient des systèmes. Et une fois ces systèmes développés, se disaient, ben après tout, finalement, on va voir si ça peut servir à quelque chose. C'est ce qu'on appelle une démarche top-down qui n'est pas forcément réussie parce que c'est comme si quelqu'un décidait de se mettre à fabriquer des voitures sans prendre la vie des clients. Donc peut-être qu'on trouverait dans les concessions des Formule 1 ou des choses comme ça, mais pour aller faire ces courses à Carrefour, évidemment, ce n'est pas indiqué. Donc on fait des Clio parce qu'on prend la vie des clients. Donc là, c'est pareil. Maintenant, on a des gens qui se sont dit « le spatial peut nous aider ». Alors, il y a deux enjeux aujourd'hui qui sont très importants. Le premier, c'est connecter. Connecté, pourquoi ? Parce que quand vous avez votre smartphone, vous êtes connecté à Internet, à tout ce qu'on peut imaginer, mais vous passez par un opérateur qui est par exemple Orange, ensuite vous vous branchez sur Google, votre moteur de recherche. L'idée de Google, c'est qu'au lieu de passer par Orange, vous passez par Google, Et pour avoir un système qui couvre la planète, eh bien, on peut imaginer des constellations de satellites. De la même façon, observer est un enjeu. On parle beaucoup de la voiture connectée, de la voiture autonome. Bon, la voiture autonome, c'est formidable, elle se conduit toute seule. Mais pour cela, il faut qu'elle ait dans son cerveau électronique une carte et que cette carte soit à jour. Parce que si on est mis dans le cerveau électronique de la voiture autonome une carte et qu'entre hier et aujourd'hui, on a fait des travaux, un trou dans la rue, elle ne le sait pas, pouf, elle va tomber dans le trou. Donc aujourd'hui, se pose la question d'avoir en permanence un système spatial qui génère des cartes, comme celles que vous avez sur Google Earth. Mais quand vous allez sur Google Earth ou sur votre smartphone, les cartes que vous voyez en quelques semaines ou quelques mois, là, des cartes en quasi-temps réel, ce qui fait que lorsque vous avez un objet autonome qui se meut, eh bien, il sait exactement où aller. Et donc, ce sont ces deux enjeux observés, connectés, qui créent le New Space avec des gens qui investissent parce que vraiment, ils veulent se servir des satellites pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire relier les gens aux autres, ou bien avoir une mise à jour en permanente des systèmes d'information géographique, c'est-à-dire les cartes. Et ces gens-là arrivent avec des méthodes totalement différentes, veulent avoir des systèmes spatiaux qui coûtent beaucoup moins cher que les systèmes habituels, arrive avec aussi des sociologies qui sont très différentes. Bon, vous me voyez ce soir, j'ai les cheveux courts, je suis en costume, j'ai une cravate. Je représente un peu le morphotype, disons, du système spatial historique. Mes collègues New Space, vous ouvrez le bof de Cabu, vous imaginez un type avec un catogan, des lunettes noires et une chemise comme ça, qui s'appelle Éric Dupont, mais qui se fait appeler Astroteller parce que ça fait plus chic. Et donc, c'est un autre monde. C'est un peu l'esprit start-up avec des choses totalement différentes. Alors, évidemment, parfois, il y a un peu des frictions parce que c'est des mondes qui ne sont pas forcément compatibles. Et donc, voilà. En quelque sorte, le monde spatial tel qu'il existe aujourd'hui. Donc ça, c'est au niveau mondial. Maintenant, si on regarde au niveau européen, je vous ai dit tout à l'heure qu'il existe une agence spatiale européenne qui est connue parce que c'est là que nous nous mettons ensemble avec l'Allemagne, l'Italie et au total 22 États membres, mais les principaux pays sont la France, l'Allemagne et l'Italie. On se met ensemble pour développer des systèmes qu'on ne saurait pas développer tout seul parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire. Donc, Ariane, par exemple, la France en paie un peu moins de la moitié, l'Allemagne en paie 25%, l'Italie 10%, et puis après, les autres pays paient le reste. La participation de l'Europe à la station spatiale, c'est pareil. Les grands programmes scientifiques, là aussi, on met notre argent en commun. Et aujourd'hui, eh bien, l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, est quand même l'Agence spatiale de l'Europe. Une agence qui réussit de façon remarquable. Venez parler de Rosetta il y a quelque temps, bon, moins d'être allé s'installer sur la planète Mars, vous n'avez pas pu louper les aventures de Philae et de Rosetta. L'Europe a quand même réussi à faire la plus grande mission de science spatiale, probablement des 30 premières années du siècle, avec Rosetta et Philae, parce qu'on a découvert un nouveau monde. On imaginait... On a lancé cette mission le 2 mars 2004. Elle est allée rencontrer la comète le 6 août 2014. La théorie disait que la comète était une boule de neige sale. Vous avez vu les images de la comète, une sorte de haricot noirâtre. Bon, et puis on a posé Philae, on a emmagasiné des données. Et donc, vendredi matin, Rosetta est allée donner ce que j'appelle l'ultime baiser à la comète, c'est-à-dire elle est allée se poser dessus et puis on a coupé Rosetta. Mais l'Europe a réussi à faire une mission absolument extraordinaire, et ça, c'est le résultat de l'Agence spatiale européenne. De la même façon, on a en Europe aussi la Commission, qui commence à mettre de l'argent sur le spatial, avec des programmes dont vous avez sans doute entendu parler, Galileo. Galileo est le GPS européen. Ça ne marche pas encore. On a déjà lancé 14 satellites. On en lancera 4 autres de plus le 17 novembre. Et si tout va bien, à la fin de l'année, on devrait avoir les premiers services. Et là aussi, on se met au niveau du GPS. Alors, vous allez me dire, il existe le GPS. Pourquoi développer Galileo? Parce que le GPS est un système américain militaire. Et que si un jour les Américains pour telle et telle raison, veulent couper le GPS, eh bien, si on dépend d'eux, on n'a plus rien. Alors qu'avec Galileo, voilà. Bon, cela dit, aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point le GPS est fondamental dans la vie quotidienne. Prenez un taxi à Paris, il ne connaît plus l'adresse. Auparavant, les gens connaissaient par cœur les rues. Aujourd'hui, le chauffeur de taxi rentre dans son truc l'adresse et faites-le, parce que je le fais souvent, je lui dis, est-ce que vous savez comment ça marche, les satellites? Il ne vous croit pas, il pense qu'il y a quelqu'un derrière le tableau de bord ou je ne sais quoi, mais c'est totalement banalisé. On n'imagine pas que tout ceci dépend d'une constellation de l'armée américaine. Bon. Et donc c'est la Commission européenne qui développe Galileo, notre programme aussi, que vous connaissez moins, mais qui s'appelle Copernicus pour l'observation de la Terre. Et donc vous voyez que l'Europe n'est pas en reste. Maintenant, si on regarde donc, le monde, l'Europe, la France, aujourd'hui, eh bien, nous avons un système spatial, un écosystème avec une agence donc, qui est le CNES, 2500 personnes, mais à côté, 13 500 personnes qui sont dans l'industrie, les industriels qui fabriquent les lanceurs, qui fabriquent les satellites, qui fabriquent les services. Et on voit bien qu'on a... La France est une puissance spatiale. Elle est une puissance spatiale parce qu'elle a les trois caractéristiques d'une puissance spatiale, donc des scientifiques qui font de la recherche, qui font tout ce qu'il y a en amont, une agence qui arrive à structurer tout ça, et puis les industriels qui ensuite joignent le geste à la parole et font des lanceurs des satellites à aval. Voilà, donc en quelques mots, je vous ai dit, un environnement qui évolue très vite. Donc le spatial au niveau mondial, ce que c'est aujourd'hui, donc le monde avec New Space émergent, l'Europe avec une agence spatiale européenne et une commission à Bruxelles, et puis en France avec des scientifiques, une agence spatiale et des industriels. C'est peut-être un peu rébarbatif de commencer un exposé par là, mais je crois qu'il faut bien comprendre parce que la plupart des gens n'ont pas une vision très claire. Bon, évidemment, quand on vit là-dedans, tout le monde sait ce dont il s'agit, mais la plupart des gens n'ont pas une vision très claire sur la façon dont ça se passe. Alors maintenant, si on s'intéresse aux enjeux, de quoi parle-t-on quand on parle d'espace? Qu'est-ce que c'est l'espace? Eh bien, il y a trois enjeux structurants qui sont très très forts. Le premier, c'est le New Space dont j'ai parlé, c'est-à-dire aujourd'hui, partout, vous avez de nouvelles idées pour faire du spatial différemment et pour faire du spatial avec une très très forte finalité sur les applications. Donc les applications, c'est utiliser des satellites pour faire à peu près ce qu'on veut. Et surtout, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui ont des besoins très particuliers se demandent si les satellites ne peuvent pas les aider. Un exemple, en Inde... L'Inde est un pays qui, quand même, n'est pas très riche. Il y a 1,3 milliard d'Indiens. Ils ont des besoins, notamment sur l'agriculture. Ils ont trouvé le moyen d'inventer ce qu'on appelle le precision farming, c'est-à-dire un système qui est très rudimentaire, mais qui se sert des satellites pour savoir à quel moment il faut arroser, il faut cultiver, il faut mettre de l'engrais. Comment fait-on? Un satellite qui observe les champs en Inde, et ce satellite, eh bien, il observe à quel moment le champ est sec, et à ce moment-là, ils ont mis un système particulièrement, je dirais, élaboré, même s'il est très, très rustique. Les Indiens n'ont pas forcément un téléphone portable comme celui que j'ai, donc il y a encore des téléphones filaires, mais ils composent des numéros, des choses comme ça, et puis ils savent si c'est le moment ou pas d'arroser leur champ ou de mettre de l'engrais. Ça, c'est typiquement une application de type New Space, parce que c'est finalement, ça prend l'espace comme un moyen plus qu'une finalité. Et donc on voit qu'apparaissent de nouveaux acteurs. Je vous ai parlé tout à l'heure d'industriels, agences, les scientifiques. Là, les nouveaux acteurs, ça va être les fermiers. Il y a un peu partout dans le monde des fermiers qui s'organisent parce qu'ils ont besoin d'avoir des images très précises pour faire justement du precision farming. De la même façon, jusqu'à un passé récent, la SNCF vérifie ses voies à longueur de temps. Donc les voies, il y a deux sujets qui s'intéressent aux voies de chemin de fer. Le premier sujet, c'est qu'il n'y ait pas d'arbres ou de végétation qui pousse et puis que le train pourrait percuter. Le deuxième sujet, c'est en particulier quand il pleut, que la voie ne s'affaisse pas. Donc pour faire cela, il y avait des gens qui passaient sur les trains, qui regardaient s'il y avait des arbres qui risquaient de venir sur la voie, ils téléphonaient, puis quelqu'un arrivait avec une tronçonneuse. Et puis pour l'affaissement des voies quand il pleut, les types se mettaient, comme vous les voyez, vous n'avez forcément vu, avec un trépied, en général il est jaune, une lunette, on regarde, on pointe et on voit si la voie a baissé ou si elle a monté. Aujourd'hui, on fait ça avec les satellites. Donc les satellites prennent des photos des voies et ils voient si la végétation arrive. Alors après, derrière, il y a un système expert qui fait ça tout seul. Et en fait, on n'a même plus à regarder. C'est le système qui dit à l'employé de la SNCF avec sa tronçonneuse où est-ce qu'il doit aller couper un arbre. Et de la même façon, on mesure avec des systèmes interférométriques l'abaissement des voies. Donc il n'y a plus besoin de gens qui vont faire des travaux fastidieux. On sait en permanence si les voies bougent ou pas. Et à partir de là, il y a des critères. Si elles s'enfoncent, je crois que c'est plus de 2 cm ou un truc comme ça, il faut intervenir parce que sinon, quand vous passez avec le train, ça fait des montagnes russes. Bon, mais ce sont des sujets qui semblent très surprenants quand on en parle parce que quand on prend le train, on n'imagine pas forcément que la voie, elle est disponible parce que des satellites l'ont observée et ont vu exactement comment elle est. Dans le New Space, il y a un aspect aussi qui est très important, dont vous avez probablement entendu parler, qui est l'innovation. Donc l'innovation, c'est en quelque sorte n'avoir peur de rien et innover en permanence, faire des choses nouvelles qui n'ont pas été faites auparavant, on appelle des choses un peu disruptives, donc avec des approches qui ne sont pas les approches classiques. Et on a donc cette nouvelle approche de l'espace qui est le premier enjeu structurant, un espace qui est fait différemment. Le deuxième enjeu, c'est le climat. Le climat, on en a beaucoup parlé l'année dernière au sujet de la COP21. S'il n'y avait pas des satellites, il n'y aurait pas eu de COP21 et on ne saurait pas, quoique commence à se voir, mais enfin on ne saurait pratiquement pas qu'il y a du réchauffement climatique. Ce sont les satellites qui, les premiers, ont observé que la température du globe augmente. Ce sont les satellites qui, les premiers, ont observé que le niveau des océans augmente. Et maintenant, ce sont les satellites, je vais y revenir, qui vont permettre d'observer que l'accord qui a été pris à Paris, l'accord de Paris le 12 décembre, après la COP21, cet accord sera respecté. Donc, observer que la température augmente, ça, ce sont les satellites de météorologie où il y a des radiomètres qui mesurent de façon précise la température du globe et on a vu qu'au fil du temps, il y avait des variations qui sont à peu près infimes. Le niveau de la mer, ça, c'est un peu le hasard parce qu'on a lancé en 92 un satellite franco-américain qui s'appelait Topex Poséidon sur lequel il y avait un altimètre. Et au fil du temps, on a vu que le niveau de la mer augmentait très très légèrement. Les décideurs ne savent pas du tout que tout ceci se fait grâce aux satellites. Lorsqu'on a préparé la COP21, j'ai eu la chance d'être associé à des réunions avec des responsables politiques au plus haut niveau qui pensaient qu'on voyait le réchauffement climatique parce qu'on faisait des pointées sur un thermomètre sur sa fenêtre. Bon, le problème est que le thermomètre sur la fenêtre, il donne des températures, alors que là, on va quand même taquiner le dixième de degré. Et de la même façon, l'augmentation du niveau des océans, les gens pensaient qu'il y avait une foultitude de zouaves du pont de l'Alma au milieu des océans et qu'on allait voir si ça montait jusqu'au nombril ou jusqu'à la poitrine. 3,2 mm par an, il faudra avoir un tout petit nombril ou un tout petit zouave pour voir que ça bouge. Et en revanche, les satellites l'observent. Et aujourd'hui, on va aller un pas plus loin, parce que ce qui a été décidé à la COP21, c'est de limiter les gaz à effet de serre. Alors, le réchauffement climatique, comment ça se passe? L'activité humaine fait qu'on dégage des gaz à effet de serre, essentiellement le gaz carbonique et le méthane. Ça, c'est l'activité humaine. C'est ce qui a changé au cours des dernières décennies. Le fait qu'il y a plus de gaz carbonique et de méthane dans l'atmosphère développe l'effet de serre, ce qui veut dire que les rayons du soleil, quand ils arrivent, eh bien, quand il y a ces gaz, il y en a moins qui repartent que ce qui arrive. Et donc, la température de l'atmosphère augmente. Et si la température de l'atmosphère augmente, les glaciers fondent et la température de la mer augmente. Très facile. Mais les satellites, je vous ai dit, ont permis d'observer l'augmentation de la température du globe. Les satellites ont permis d'observer l'augmentation du niveau des océans. Et maintenant, on va s'intéresser à mesurer les gaz à effet de serre. Parce que l'accord de Paris, quand la Chine décide de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faut aller voir si c'est vrai ou pas. Et la Chine elle-même, le seul moyen qu'elle a de savoir si ses industriels limitent leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est grâce aux satellites. Et donc, on a lancé un certain nombre de nouvelles initiatives en France, en Europe, aux États-Unis et un peu ailleurs, pour faire des satellites qui vont faire une sorte de météo des gaz à effet de serre. Le soir, vous ouvrez la télévision, vous voyez la carte météo. La carte météo, quand vous voyez des nuages, ce sont des nuages de vapeur d'eau. L'idée est d'avoir la même carte météo, mais avec des nuages de gaz carbonique ou de méthane, pour savoir où est-ce que ça apparaît, comment ça se passe. Donc il y a tout un travail qui est en cours, mais les satellites vont permettre de s'attaquer à ce sujet. Et un point qui est très important, tout à l'heure Daniel disait que je passais beaucoup de temps à voyager, c'est que ceci doit se faire dans le cadre d'une coopération internationale globale pour deux raisons. La première, ça coûte cher, donc on met les moyens en commun et ça permet d'abaisser les coûts. Mais la raison la plus importante, c'est qu'il faut que toutes les données de ces satellites soient partagées. Si vous avez un satellite français qui observe qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre émis par l'Allemagne et il n'y a pas beaucoup en France, et les Allemands vont vous dire que vos mesures sont fausses. En revanche, si vous avez un satellite franco-allemand, elles sont partagées, voilà. Et bon, encore avec la France et l'Allemagne, ça va plutôt bien, mais la problématique, c'est un satellite américain versus un satellite chinois, vous l'aurez compris. Et donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place une coordination globale au niveau mondial pour que ces données soient partagées, soient utilisées ensemble et qu'on arrive à avoir un système, donc une sorte de météo. Comme vous avez la météo le soir, eh bien, un système par satellite. Alors, la météo le soir, là aussi, une anecdote. De moins en moins de gens réalisent que ça se fait par les satellites. On raconte une anecdote dont je vous livrerai une partie. Je suis persuadé que vous devinerez la deuxième partie. Un président américain recevait l'administrateur de la NASA et l'administrateur de la NOAA qui venaient lui dire qu'il fallait investir 8 milliards de dollars pour développer un nouveau système de satellites de météorologie. Il leur a répondu, une fois de plus, elle me fait gaspiller de l'argent pour rien, puisque le temps qu'il fait, je l'ai en regardant la météo à la télévision. Bon, il n'avait pas... Mais cette anecdote... Ce n'est pas très charitable pour le président en question, mais en même temps, c'est un peu la rançon de la gloire, parce que... On a réussi à faire en sorte que c'est totalement entré dans la vie quotidienne et on ne sait même plus que ça vient par les satellites. C'est la même chose que le chauffeur de taxi dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous êtes dans une rue de Paris qui est un peu un canyon comme on en a, le GPS s'arrête parce que vous ne voyez pas les satellites. Si vous dites au chauffeur, c'est parce qu'on ne voit pas les satellites, il a du mal à vous croire. Voilà, donc ça c'est le deuxième enjeu, le climat. Troisième enjeu, c'est l'exploration avec Mars. Pourquoi le sujet de l'exploration sur Mars ? Parce que quand on regarde où est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie ailleurs que de la Terre, que sur la Terre, dans le système solaire, il n'y a pas 36 endroits. Vous prenez les planètes depuis le Soleil, bon, Mercure est un caillou calciné, Vénus un enfer sulfurique avec justement de l'effet de serre, des températures de plusieurs centaines de degrés et de l'acide. La Terre, nous y sommes. Mars a été habitable, il y a eu de l'eau. On sait que Mars a été habitable il y a plusieurs milliards d'années. Et la question qu'on se pose, c'est Mars a-t-il été habité ? Et puis si on va au-delà de Mars, il y a les planètes gazeuses. Donc là, il ne peut pas y avoir de vie puisque c'est du gaz et c'est très froid. Peut-être quelques satellites de Jupiter ou de Saturne où on a des projets pour aller les explorer. Mais enfin, Mars intrigue tout le monde parce qu'il y a eu de l'eau, beaucoup d'eau, elle a disparu. Il y avait une atmosphère, elle reste, elle est très très ténue, ça a bougé. Et donc aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller gratter le sol de Mars pour voir si, il n'y aurait pas des vestiges de bactéries ou d'êtres vivants qui ont pu exister. On est à peu près convaincu qu'ils n'en existent plus aujourd'hui, mais qui ont existé. Et il est clair que si on trouve sur Mars des vestiges d'une vie passée, je pense que ça remettra en perspective certains débats qui existent aujourd'hui et ça répondra à quelques questions plus fondamentales. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement très fort pour l'exploration. Alors, des sondes automatiques qui partent vers Mars, donc on peut aller vers Mars tous les 26 mois, parce qu'il y a des problèmes, il faut être en face de Mars, donc tous les 26 mois, on a une fenêtre pour y aller. Donc, tous les 26 mois, on envoie des sondes. L'Europe en a envoyé une, ExoMars, qu'on a lancée au mois de mars. Ça n'a aucun rapport, le fait qu'on est en mars et qu'on va vers Mars, mais c'est comme ça. Et donc, elle est partie au mois de mars. Elle doit arriver autour de Mars le 19 octobre, donc dans peu de temps. Et elle se mettra en orbite. Et si tout va bien, elle lâchera un atterrisseur qui s'appelle Schiaparelli, qui ira se poser sur Mars. Et puis, si ça se passe bien, on en lancera une autre en 2020 avec là, un petit rover qui ira crapahuter. Et aux États-Unis, se fait l'idée de la mission martienne habitée pour aller voir de près ce qui se passe. Vous avez probablement entendu la semaine dernière, parce que ça a eu un succès mondial, la conférence qu'a fait Elon Musk. Il y avait le congrès de la Fédération internationale d'astronautique à Guadalajara au Mexique, plus connu Guadalajara pour un certain match de foot lors d'une coupe de foot, je crois que c'était du monde de foot, je crois que c'était en 86. Et j'irais, Sébastiston s'était illustré. Mais bon, la semaine dernière, il y avait le congrès de la Fédération internationale d'astronautique. Et donc, Elon Musk, qui est un milliardaire américain qui a réussi notamment dans le spatial, est venu présenter ses projets pour aller sur Mars. Aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas déraisonnable de penser qu'il y aura une mission habitée qui ira vers Mars à la fin de la prochaine décennie, c'est-à-dire dans 10 ou 15 ans. Il y a un an, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit 2040-2050, qui est un horizon extrêmement lointain, 35 ans, ça fait quand même très loin. 10 ans, c'est demain, parce qu'on s'y prépare. Voilà, donc ça, c'est le troisième enjeu, l'exploration. Donc, si je résume, les trois enjeux du spatial, le new space, c'est-à-dire tout ce qui décoiffe, qui est nouveau, le climat et l'exploration, notamment Mars. Et si vous réfléchissez, vous voyez que ça peut sembler un peu lointain de la vie quotidienne, mais dans la vie quotidienne, ce sont les sujets dont on parle. Regardez sur une semaine ce dont parlent les médias, le new space, c'est la technologie, le numérique, vraiment la haute technologie, tout le monde en parle. Le climat, on nous en a beaucoup parlé au moment de la COP21, mais on continue à en parler. Bon, l'été dernier, pas besoin de satellite à Paris pour se rendre compte qu'il fait quand même plus chaud. Et Mars, on en parle aussi. Et donc, c'est le spatial moderne. Alors, là-dedans, comment la France se positionne-t-elle? Eh bien, donc le CNES, que j'ai l'honneur de présider, le CNES à l'heure du New Space, dans ces trois enjeux. Donc, d'abord, les lanceurs. Bon, les lanceurs, c'est le mot un peu savant pour parler des fusées. Donc, on a en projet, après le succès des Ariane, donc là, on a Ariane 5 qui vole. Demain, c'est pratiquement le centième lancement. Et si tout va bien, ça doit être le 88e lancement d'Ariane 5. Et donc demain, si tout va bien, ça sera le 74e succès d'affilée. Donc ça marche bien, mais c'est cher. Et donc c'est pour ça qu'on a dessiné une Ariane 6, dont vous avez le dessin sur la gauche de l'écran, qui sera moins cher. Et puis, on pense déjà à l'après Ariane 6, parce qu'il faut toujours avoir un coup d'avance, avec probablement des lanceurs qui sont réutilisables, parce que ça permet encore d'abaisser les coûts de lancement. Alors typiquement, pour fixer les idées, même si ce sont des nombres un peu abstraits, mais un lancement d'Ariane 5 aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros. Ariane 6, ça sera 100, et si on fait du réutilisable, on peut descendre peut-être à 30 ou à 20. C'est un sujet de recherche, et ce n'est pas facile, parce que bon, dans les bandes dessinées, une fusée réutilisable existe, c'est celle de Tintin, que tout le monde connaît. Pour ma part, j'en ai une sur mon bureau. Mais pour l'instant, c'est une bande dessinée. Donc elle part, elle monte, elle redescend, elle fait la manœuvre de retournement, elle se pose, pouf, sur son moteur. Depuis un an, ça existe, mais c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Mais ça peut être un moyen d'abaisser les coûts. Le deuxième sujet, les sciences. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est absolument extraordinaire, dont on s'émerveille jour après jour. Donc là, j'ai mis quelques grands sujets sur lesquels on travaille. Donc je vous ai parlé de Mars. Donc on va envoyer en 2020 avec la NASA un robot qui s'appelle Mars 2020. Il y en a déjà un qui est parti en 2012 qui s'appelle Curiosity, dont vous avez dû entendre parler, donc qui crapahute à la surface de Mars. Et sur Curiosity, il faut voir que les yeux de Curiosity, c'est-à-dire les caméras, sont français, sont fournis par le CNES, par l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Alors, c'est une stratégie de niche. Un robot comme Curiosity, une mission comme Curiosity, c'est 2,5 milliards de dollars. La France n'a pas les moyens de se le payer, n'a pas la technologie, parce que c'est très difficile de faire un truc comme ça. Mais on met une caméra 100 millions de dollars, donc 25 fois moins cher. Et l'essentiel de la mission, c'est nous qui la faisons. Alors, bien sûr, on partage les images avec les Américains, mais donc c'est un bon exemple de coopération. Je vais parler de Jupiter et des lunes de Jupiter, donc il y a JUICE sur lequel on travaille. Euclide, bon, c'est pour aller voir des choses, on ne voit pas, la matière noire, des choses cachées, mais c'est un sujet qui est tout aussi important pour faire de l'astronomie vraiment fondamentale. Et puis SVOM, qui est un projet qu'on fait avec les Chinois pour aller voir les sursauts gamma. De temps en temps, on voit dans l'univers des bouffées d'énergie, et donc SVOM va les observer. Et puis il y en aurait bien d'autres, bien sûr, dont on peut parler. Bon, je vous ai parlé de Rosetta, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu Planck, Herschel. Vraiment, sur les sciences, on a un système en France et en Europe qui est tout à fait remarquable, parce qu'on a une solide tradition, et on fait de la science spatiale avec des coûts quand même bien moindre que ce qu'on voit aux États-Unis, et avec des résultats comparables et dans bien des cas meilleurs. Troisième sujet, c'est l'observation. Donc, vous avez parlé là aussi des images d'observation de la Terre. Et aujourd'hui, c'est une observation qui est de plus en plus orientée climat. Donc là, vous voyez, Microcarb va observer les nuages de gaz carbonique dont je vous parlais. Le gaz carbonique est l'un des deux gaz à effet de serre. Merlin observera les nuages de méthane. Jason CS va continuer à s'intéresser à la hauteur de l'océan. Et SWOT va regarder la façon dont l'eau aussi, non pas sur l'océan, mais l'eau douce dans les rivières, les marais, les lacs, comment ça évolue là aussi. Donc ce sont des missions extrêmement intéressantes et qui peuvent faire des choses que seuls les satellites peuvent faire. Je vous parlais tout à l'heure du zouave du pont de l'Alma. On ne sait pas mesurer autrement que par satellite l'augmentation du niveau des océans. On ne sait pas mesurer autrement que par les satellites les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un programme là aussi qui est tout à fait conséquent. Les télécommunications, ben là aussi, auparavant, on utilisait les télécommunications pour faire ce qu'on appelle du point-à-point. Première liaison, je crois que c'était au début des années 60, Pleumeur-Baudou, si vous retournez. Certains d'entre vous sont bretons. Dans la Pleumeur-Baudou, il y a toujours le radome qui est à peu près grand comme l'amphithéâtre. Il y a une station. Donc ça, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, le radome est remplacé par l'antenne que vous ne voyez pas, qui est là-dedans, qui permet de temps en temps de communiquer avec les satellites. Ça donne une idée du progrès. Et on continue. Et aujourd'hui, les satellites de télécommunication, donc il y a une application qui existe aujourd'hui, mais qui va probablement évoluer, qui est la télévision par satellite. Donc, beaucoup de gens ont de paraboles sur leur balcon pour avoir la télévision. Le problème est qu'on ne regarde plus la télévision, surtout quand on est jeune. On regarde la télévision sur son iPhone, on ne regarde plus devant un écran. Et quand on regarde la télévision sur son iPhone, eh bien, l'iPhone, il ne passe pas par satellite, ou alors il passe par ailleurs, mais vous avez un réseau, le 3G, la 4G, bientôt la 5G qui arrive. Donc, la télévision par satellite va probablement évoluer, mais en revanche, il y a quelque chose qui va apparaître, c'est l'Internet par satellite. Parce que, il y a, pour avoir, bon, quand on est dans une ville comme ça, on peut avoir la 5G partout, ce n'est pas un problème. Quand vous commencez d'aller à la campagne, C'est ce qu'on appelle les zones blanches, et ce qu'il est de tradition d'appeler, entre guillemets, la mamie du Cantal, eh bien, la mamie du Cantal, elle n'a pas accès à Internet, et aujourd'hui, l'évolution de la société est telle que si vous n'avez pas accès à Internet, on est perdu. Bientôt, faire sa déclaration d'impôt, ce n'est pas un exercice forcément des plus agréables, mais il faut la faire obligatoirement par Internet. De la même façon, la sécurité sociale, tout ça, il faut être connecté à Internet. Et quand vous êtes dans l'habitat rural, alors la France, l'habitat n'est pas trop clairsemé, mais même dans des zones un peu éloignées, vous n'avez pas Internet, et le satellite, vous avez Internet. En Australie, Ariane demain va lancer donc un satellite australien. L'Australie a décidé de mettre Internet à toute sa population. Il faut savoir qu'en Australie, 99% de la population vit sur 1% du territoire. Donc ces gens-là sont connectés à Internet par la fibre et par des antennes locales. Mais donc si 99% vit sur 1% du territoire, vous déduisez facilement que 1% de la population vit sur 99%. Et là, il n'y a pas moyen de mettre de la fibre, et donc les Australiens sont payés deux gros satellites qui vont mettre partout l'Internet en Australie, parce que l'Australie a décidé qu'à compter de l'année prochaine, tous les habitants doivent être connectés à Internet, et donc il y a des tas de services où aujourd'hui on a le choix entre Internet et des moyens plus classiques qui vont basculer sur Internet. Donc ça, c'est les télécommunications, et le dernier sujet sur lequel nous travaillons, c'est bien sûr la défense. Alors, on n'en parle pas trop parce que, bon, c'est la défense, mais ça permet donc de prendre des photos précises, de communiquer de façon sécurisée. Donc, un fantassin qui est quelque part en Afrique ou au Moyen-Orient peut communiquer avec l'état-major qui est à Paris et sans que personne ne puisse entendre ce qu'il raconte. Ça peut faire aussi de l'écoute, on peut écouter. Bon, faire des choses un peu sophistiquées, mais c'est très important. Et si la France peut aujourd'hui avoir la politique militaire qu'elle a, c'est parce que nous avons des satellites de défense. Sans satellites de défense, il n'y aurait pas toutes les opérations militaires que nous faisons. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la façon dont on décline en France les trois enjeux dont je vous parlais. Donc peut-être pour terminer, et puis après je répondrai à vos questions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'innovation à marche forcée. Toujours innover, faire des choses de façon différente, parce que ça évolue très, très vite. Et on le voit, c'est le monde moderne. Dans la vie quotidienne, vous avez un iPhone 5, tous les ans, on passe au 6, parce qu'il a plus de fonctionnalités, Bon, ça évolue. Donc, il faut faire la même chose. La deuxième idée, ce sont les applications. Je vous ai parlé tout à l'heure du paysan indien, donc là, j'ai mis sa photo. De faire des applications avec le spatial qui sont assez inattendues. Et ça, être vraiment à l'écoute pour expliquer que les satellites peuvent faire des choses. Et puis le troisième enjeu, je terminerai là-dessus, l'inspiration, parce qu'il faut faire venir des jeunes et des jeunes talentueux dans le spatial. Il se trouve que j'ai fait une partie de ma thèse il y a longtemps aux États-Unis, à Berkeley, et vous faites une partie de votre thèse au laboratoire américain. Ils vous demandent après, tous les ans, de venir faire une lecture, c'est-à-dire d'expliquer aux étudiants qui sont là ce que vous faites. Et j'ai quand même vu en 30 ans un glissement d'une situation où à Berkeley, il y avait de jeunes Américains, où j'ai vu des jeunes Américains d'origine chinoise et indienne arriver. Et puis maintenant, c'est dans un département d'astronomie, maintenant, il n'y a pratiquement plus que des Chinois et des Indiens, parce que les jeunes Américains, aujourd'hui, se tournent beaucoup plus vers les carrières médicales ou de lawyers, qui sont supposées être plus rémunératrices que faire des sciences, un métier d'ingénieur. Mais à contrario, on se rend compte que tous les pays dans le monde qui aujourd'hui ont de la croissance parce qu'ils investissent sur la technologie. On ne fait pas de la croissance, on ne développe pas un pays en faisant visiter des musées. Donc il faut avoir de la technologie et attirer les jeunes à faire de la technologie. Et ça, je pense que l'espace, en particulier les sciences spatiales, c'est extrêmement important. Après l'atterrissage de Philae sur sa comète, on a eu des tas de jeunes qui nous ont envoyé des CV. parce que ça les intéresse, ça les fait rêver, mais c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. Et donc c'est tellement important que le plan stratégique du CNES qui définit ce que nous faisons, eh bien on l'a appelé innovation et inspiration. Voilà, en plus, comme on vit dans un monde qui est international, vous observez qu'en mettant entre innovation et inspiration, non pas le mot ET, mais ce qu'on appelle une esperluette, eh bien, ça se lit aussi bien en français qu'en anglais. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez répondre.
Bien, merci pour cette remise à niveau et en plus de nous avoir donné ces perspectives vraiment très, très stimulantes. Maintenant, je me tourne vers le public. Je pense qu'il y a des questions. Oui, je vais passer le micro, comme d'habitude.
Merci pour cette excellente présentation. D'une présentation de SpaceX pour explorer et coloniser Mars. Votre plan stratégique a été modifié ou vous avez trouvé ça un peu prématuré ?
Non, on travaille. Il y a une très forte école scientifique sur Mars en France. Depuis toujours, les scientifiques français s'intéressent à Mars. Et si nous sommes sur tous les projets de la NASA, ça commence avec les Russes, la NASA, les Européens, c'est parce qu'il y a cette compétence en France sur Mars. Et donc, on l'a mis. Mais bon, cela dit, un plan stratégique, ça a vocation à bouger en permanence. Vous le signez, et puis tous les 6 mois, il est actualisé, ainsi de suite. Mais on voit que quand même, depuis 2 ou 3 ans, il y a ces sujets qui sont sortis très fort. Donc, c'est pour ça qu'on s'y est accroché.
Merci. Commercialement parlant, qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? C'est SpaceX, Blue Origin, les Chinois, les Indiens ? Parce que les prix tombent de plus.
Tous. Mais pour des raisons différentes. SpaceX, Blue Origin, c'est parce que c'est de l'innovation forcenée. Les Indiens, c'est parce qu'ils ont des coûts très bas. Les Chinois ne peuvent pas être sur le marché aujourd'hui. Ce qui est ce qu'on appelle les normitards, c'est-à-dire que les États-Unis ne s'autorisent pas à venir, mais s'ils devaient y être, les niveaux de salaire en Chine étant bas. Alors, cela dit, ça c'est aujourd'hui. Si on se projette à 10 ans, ceux qui gagneront la course, c'est SpaceX, parce que les salaires augmenteront en Chine et en Inde. En revanche, c'est l'innovation. Aujourd'hui, SpaceX arrive à faire des prix comme les Indiens, mais avec des salaires américains. Et donc, on voit bien qu'il y a une force. Mais pourquoi font-ils des prix aussi bas ? C'est parce qu'ils ont investi dans l'innovation, que là où sur des lanceurs, il y a 3 moteurs, ils n'ont qu'un seul moteur, et ainsi de suite.
Puis ils ont l'innovation aussi.
Pardon ?
Ils ont l'innovation aussi.
Oui, ils ont de l'innovation.
Ils sont bons.
Et c'est ce que nous faisons avec Ariane 6, par exemple.
Encore une question. À propos de la Station spatiale internationale, je crois que les Américains voudraient l'abandonner d'ici 10 à 15 ans. Une question bête, pourquoi l'Europe ne l'achèterait pas ? C'est dommage de mettre ça à la poubelle.
D'abord parce que ça coûte extrêmement cher à entretenir. La station aujourd'hui, c'est 100 milliards d'investissements. 100 milliards de dollars. C'est le plus grand... Non, pas par an.
D'investissement.
D'investissement. On a commencé à investir sur la station en 1990, donc il y a 25 ans. Chaque année, il faut claquer 2 ou 3 milliards pour l'entretenir. Mais bon, ça fait vivre des astronautes dans l'espace, mais à un coût qui est faramineux. Donc on voit bien que... Et puis en plus, la station vieillit. Tôt ou tard, elle va tomber en panne. Alors après, je ne sais pas ce qu'on en fera, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyen de la désorbiter. Donc très probablement, là, il y a la station chinoise qui va tomber début 2017. Bon, elle peut tomber n'importe où entre plus 51 degrés de latitude nord et plus 51 degrés de latitude sud. Bon, par chance, il y a beaucoup d'eau. Donc, mais elle peut tomber sur Singapour ou sur Paris. Hein. Mais bon, voilà. Mais statistiquement, il y a peu de chance. Voilà, mais bon, l'acheter, c'est un truc qui est consommable, disons.
J'aurais une question en ce qui concerne les différentes rubriques qui ont été évoquées, là, science, observation, défense. Quels sont les budgets respectifs, les proportions à peu près ?
Bon, le CNES a un budget de 2 milliards un peu plus de 2 milliards au total. Bon, ce qui coûte très cher, c'est quand même les lanceurs. Après, dans l'ordre, c'est celui que j'ai mis, Science, observation, bon, après c'est des paquets de 300, 350 millions. Science, observation, télécommunications et défense.
C'est vrai aussi pour les États-Unis ou il y a d'autres rapports ?
Alors les États-Unis, non, les États-Unis ont un effort sur la défense considérable. J'ai parlé du budget de la NASA qui est à 19 milliards de dollars. Le budget du département de la défense en fait autant, plus ce qu'on appelle les Black Projects, c'est-à-dire un budget pour le président américain à sa discrétion. On considère que les États-Unis investissent chaque année à peu près 5 à 6 fois plus que l'Europe dans l'espace. Mais je ne dirais pas que l'Europe est 5 ou 6 fois plus efficace, mais enfin l'Europe est significativement plus efficace.
Je vais monter un peu.
Merci pour cet exposé, mais j'arrive pas à bien saisir exactement la part de réalisation du CNES. Prenons un exemple, Ariane 6. Actuellement, il y a une société qui construit Ariane 6, qui est une filiale commune à Airbus et Safran.
Oui. Bon.
Vous avez dit tout à l'heure que le CNES s'occupait de lanceurs. Quel a été ou quel est le rôle du CNES dans cette opération Ariane 6 ?
Quand vous dites qu'il y a une société qui construit, c'est inexact, parce que la société ne construit pas, nous construisons ensemble. Donc Ariane 6 est un programme qui associe l'Agence spatiale européenne, le CNES, Airbus, Safran, et avec des responsabilités qui sont interpénétrées et des choses diverses. Regardez le lancement de demain soir, le lanceur a été construit par l'industrie. Il a été vendu auprès des clients par Arianespace et le lancement proprement dit en Guyane sera fait par une équipe où il y a des industriels, des gens d'Arianespace, des gens du CNES. Tous ces gens travaillent ensemble. Donc on est dans un système qui n'est pas où il y a plusieurs partenaires qui travaillent ensemble. Alors après avec des périmètres qui sont parfois un peu difficiles à décrire. Et il y a aussi l'aspect financier. Tout ce qui est sur budget d'État, c'est le CNES qui apporte le budget. Donc nous avons des rôles multiples, des casquettes multiples. On est à la fois développeur, opérateur, financeur. Mais globalement, ça marche.
Oui, je suis un peu étonnée qu'on ait changé si vite d'avis à propos des vols habités sur Mars. Il me semble qu'il y a un an ou un peu plus, on disait que ce ne serait pas réalisable parce que les normes de sécurité, on ne pouvait pas les respecter, déjà. Et on disait aussi qu'en envoyant des humains sur Mars, on allait polluer et comment on allait s'y retrouver ensuite. Alors, pourquoi est-ce qu'on a abandonné ces arguments ? Enfin bon, c'était fallacieux de dire ça au départ. Bon, je ne comprends pas bien.
Non, la partie, les normes de sécurité, ça se contrôle parce qu'on fait un projet de station, des choses comme ça. La pollution, l'argument là existe toujours, dans tact. Mais le phénomène déclenchant, c'est le coût. C'est-à-dire que comme le coût de l'accès à l'espace diminue de façon spectaculaire, on avait une mission à très très long terme parce qu'il fallait mobiliser 100-200 milliards de dollars, ce qui est quand même hors de portée. Aujourd'hui, on estime que la mission martienne, c'est plus de 40 milliards de dollars. Quand on a mis 100 milliards sur la station, on voit que ça devient de l'ordre du faisable. Alors, il faut savoir que c'est comme la station, ce sera une mission qui sera tirée par les États-Unis, bien sûr, avec de la coopération internationale, les États-Unis étant le principal bailleur de fonds. Alors après, vous allez me demander à quoi ça sert d'envoyer des hommes sur Mars. C'est une bonne question. Avec des robots, on peut faire pareil, mais il y a une dimension un peu politique, symbolique. Oui, du prestige. Aujourd'hui, il est quand même frappant de voir que la plupart des pays veulent envoyer des hommes dans l'espace. Là, Thomas Pesquet, le français, va partir. Il y a un engouement autour de Thomas Pesquet qui est considérable. Le vendredi, c'est la fête de la science. Le parrain, c'est Thomas Pesquet. C'est quand même quelque chose. Personne ne s'identifie à quiconque travaille au CNES, même au président du CNES. Les gens n'en ont rien à faire. Vous faites venir ici un astronaute. Vous auriez dit ce soir qu'au lieu de moi, il y avait Thomas Pesquet. Il y aurait eu une queue de 500 mètres dans le boulevard Arago. Et on aurait joué à sold out. C'est un fait. Bon, voilà, parce que les astronautes ont une aura particulière.
Ça permettra d'avoir
Oui, ben, ça permet aussi, ça porte le projet, donc il y a une émulation.
J'aimerais savoir, puisqu'il y a marqué innovation et inspiration, s'il y a des programmes sur la Lune, parce qu'il y avait un projet où on se faisait la main. C'est pas loin, 360 kilomètres, on peut envoyer des hommes, enfin on peut essayer plein de choses. Qu'est-ce qui est prévu ?
À la question que vous posez, deux réponses. Bon, la première, la Lune n'a pas d'intérêt scientifique, on y est allé. On a rapporté des centaines de kilos de roches lunaires qui croupissent dans les sous-sols de la NASA parce qu'on en a analysé quelques-unes, il n'y a pas eu de vie, il n'y a pas eu de choses comme ça. Ça, c'est la première réponse. Puis la deuxième, si je peux me permettre, on se fait la main ou autre, ce n'est pas un sujet. Aller sur Mars est à peine plus cher que d'aller sur la Lune. Et aller sur la Lune met une complication supplémentaire. Voilà. Bon, c'est exactement pareil que d'aller sur la Lune, à part qu'au lieu que le voyage dure 3 jours, il dure 9 mois. Mais, bon, non. Oui, mais enfin, à partir d'aujourd'hui, les gens restent dans la station 1 an. Donc, ils peuvent très bien le tourner autour de la Terre. C'est comme vous avez l'habitude de faire 2 heures de cheval en manège. Voilà, et puis... Une fois que vous savez faire 2 heures de cheval en manège, vous pouvez partir et faire 2 heures de cheval comme vous faisiez en manège, mais au lieu de tourner en rond, vous tracez. C'est un an. Donc là, 2 ans, il faut 9 mois pour aller sur Mars, 6 mois pour rester en orbite, 9 mois pour revenir. Enfin, c'est pas incommensurable, c'est du même ordre de grandeur.
Oui, donc l'enjeu est ailleurs, en fait. Le problème est ailleurs, d'ordre psychologique peut-être, parce qu'il faut que les gens partent.
C'est vrai que la psychologie, il faudra quand même, parce que là, tous les gens qui sont quand même allés dans l'espace ou même sur la Lune, voyaient toujours la Terre. Vous partez vers Mars, au bout de 10 jours, c'est le noir. On ne voit plus rien. On a un lien avec la Terre. Les gens qui sont en orbite aujourd'hui dans la station, ils savent que s'ils ont un problème médical, par exemple, ils rentrent dans le Soyouz, 3 heures plus tard, ils sont dans un hôpital. Quand vous êtes entre Mars, la Terre et Mars, si vous avez un problème médical, ou bien vous avez un médecin à bord qui vous soigne, ou bien ça peut être compliqué.
Difficile. Alors, encore une question ici.
Merci. Mais je crois que vous avez répondu indirectement à la question que je voulais vous poser. En ce sens, Ariane 5 est le lanceur actuel. Vous avez prévu Ariane 6, mais j'ai cru comprendre qu'Ariane 6 serait bien moins puissante que Ariane 5.
Pas beaucoup moins.
Donc les projets seront vraiment moins ambitieux que ceux qui peuvent avoir...
Non, parce que les satellites sont plus petits.
Merci.
Il y a une miniaturisation. Si vous voulez, sur les systèmes d'observation du climat, le premier satellite d'observation du climat qu'on a lancé, c'était Envisat en 2001, qui avait été conçu dans les années, fin des années 80. Il avait la taille d'un autobus. Ensuite, les satellites d'observation qu'on lance aujourd'hui, ils ont la taille d'une voiture. Microcarb et Merlin, dont je vous ai parlé, ils ont la taille d'une machine à laver. Et ils ont à peu près des performances comparables. Donc il y a une miniaturisation, les tailles diminuent de façon considérable. Regardez, là aussi, c'est pour fixer les idées, il y a 20 ans, tout le monde partait en vacances avec un appareil photo, on avait un réflexe, on avait un truc en bandoulière sur le ventre avec un objectif comme ça. Aujourd'hui, vous partez avec votre iPhone, vous faites des photos qui sont pratiquement aussi bonnes. Et le truc est minuscule. C'est pareil pour le spatial.
C'est sûrement grâce au spatial, d'ailleurs.
Il y a un couplage.
Voilà. Alors, en ce qui concerne la miniaturisation, ça me conduit à une autre question. Puisque pour parler des nanosatellites, oui. Il semble que la France n'est pas. Il y a un certain retard par rapport aux
États-Unis. On ne peut pas tout faire. Les États-Unis ont développé une expertise en matière de nanosatellites. Donc ils font des boîtes qui font 10 par 10 et à laquelle. Là aussi, je vous demande de reprendre l'exemple de l'iPhone. Il y a là-dedans quand même un concentré de technologie phénoménale. Et un nanosatellite, c'est l'équivalent de 100 iPhones empilés les uns sur les autres. Donc vous imaginez la boîte de technologie que cela constitue. Les Israéliens, qui sont spécialistes de faire des nanotechnologies avec des applications diverses et variées, mettent dans l'équivalent de 10 cm par 10 cm par 10 cm, ils font des satellites d'observation, d'écoute, des choses comme ça. Et alors, l'intérêt, c'est que, bon, c'est sophistiqué, mais c'est petit, donc ça ne coûte pas trop cher. Et puis pour le lancer, c'est quasiment gratuit parce qu'on l'accroche à un gros satellite qu'on lance. Puis ça pèse un kilo, ça pèse rien, et puis on le lance.
Ça veut dire que ça donne des coûts? Quel ordre? C'est combien du kilo le lancement d'un...
Un kilo en lancement pour un gros satellite, bon, je vous ai dit tout à l'heure, Ariane 5, 200 millions, 10 tonnes, ça fait 20 000 $ le kilo. Oui. Ariane 6, 10 000 $ le kilo. Des gros satellites. Il n'y a pas de lanceur. Si je veux lancer un satellite d'un kilo,
oui,
il n'y a pas un lanceur qui va
le lancer. Il faut en envoyer 100.
Pour 10 000 coups. Voilà. Donc un micro-satellite, même si on le met au prix au kilo, 10 000 $ le lancement, et encore que ça coûte moins cher.
Ouais.
Voilà. Mais alors, c'est vrai que là aussi, il y a des progrès qui sont spectaculaires.
Et alors apparemment, enfin, j'ai cru comprendre qu'à Montpellier, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués.
La Fondation Varenne, avec l'Université de Montpellier, qui travaille là-dedans, parce que, ben, évidemment, des étudiants, c'est plus facile de travailler sur un anneau que sur un gros satellite. La mise en œuvre est différente, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on a là aussi une sorte de vulgarisation, banalisation de l'espace, ça se répand.
Alors vous avez parlé tout à l'heure de Berkeley, et justement oui. Du fait que les jeunes et les blancs américains s'intéressent de moins en moins au spatial.
Il y a un regain.
Qu'en est-il de la France, par exemple?
Il y a un regain aussi. Il y a un regain depuis 3-4 ans, avec les missions martiennes. Enfin, c'est un peu le... Hollywood est venu à la rescousse. Il y a eu 3 films grand succès. Gravity... ça a commencé avec Gravity, avec ensuite Interstellar, et puis là, Seul sur Mars, The Martian. Et donc, ça crée de l'émulation parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du spatial, et donc c'est un système un peu win-win. Merci.
Bonsoir, monsieur, et merci pour l'exposé. J'avais une question concernant le lanceur réutilisable SpaceX.
Oui.
A priori, ce sera vraiment une rupture technologique le jour où on saura faire réatterrir une fusée.
Ça, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. Oui, enfin, le jour où ce sera commercialisé et assuré.
Ils l'ont fait.
Non,
ils vont bientôt utiliser un étage qui a déjà volé, qui est revenu, le faire repartir.
D'accord. J'ose imaginer que les Français y avaient pensé avant.
Oui.
Alors pourquoi ils ne sont pas allés au bout? Pourquoi ça aurait été abandonné? Est-ce qu'on va chercher à y revenir?
Non, parce que en fait, SpaceX cultive l'idée que c'est une start-up, mais en fait, ils s'appuient sur tous les développements technologiques de la NASA. Leur lanceur est utilisable, ils s'appuient sur deux développements majeurs. Le premier, c'est le moteur à bas coût que la NASA a développé pendant 10 ans. Il s'appelle les Fast Track, et qui chez SpaceX s'appelle Merlin. Et le deuxième, c'est la capacité de modéliser de façon très précise la haute atmosphère terrestre, parce que la fusée, quand même, quand elle est lancée, elle sort de l'atmosphère. Ensuite, il faut qu'elle rentre en faisant une manœuvre compliquée. Et la NASA a investi de façon considérable sur les modélisations de l'atmosphère pour les missions vers Mars, justement, pour modéliser la haute atmosphère martienne. Et donc, il s'appuie sur tous ces algorithmes. Et ça peut sembler simple, mais il y a derrière une quantité de technologie qui est considérable. Bon, cela dit, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas penser qu'ils ont pris une avance qu'on ne rattrapera jamais. L'exemple que je donne toujours, c'est au milieu des années 50, la France a développé un avion, encore avec des moteurs à piston, qui s'appelle le Super Languedoc, pendant que les États-Unis développaient le Boeing 707 et le DC-8. Ça ne nous a pas interdit 10 ans plus tard de faire la Caravelle et aujourd'hui Airbus qui tient la rangée haute à Boeing. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une émulation. Peut-être que SpaceX, bon là ils ont eu un revers, mais bon, peut-être que SpaceX va arriver à faire en sorte que son lanceur devienne un nouveau standard. Et à partir de là, si vraiment il est prouvé que c'est beaucoup plus rentable et que ça nous pose des problèmes, on s'en inspirera, on fera la même chose, je suis sûr qu'on fera aussi bien. Avec Ariane, c'est pareil. L'aventure Ariane a démarré en 73, au moment où les Américains arrêtaient d'aller sur la Lune. Bon, aujourd'hui, nous sommes en tête du marché commercial.
Oui, j'ai une question ici. Voilà. Encore 2 questions.
Merci. Allô, bonjour monsieur. Je voudrais revenir sur une toute petite remarque de votre exposé là. Vous avez parlé de Galiléo, et il me semblait que Galiléo était compatible avec le système GPS, et je ne vois pas pourquoi les satellites qui ont été lancés ne sont pas utilisables en complément de GPS. Mon iPhone est complètement incapable de distinguer les deux.
Non. Votre iPhone a besoin d'une puce spécifique à Galiléo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que la puce pourra traiter aussi bien les données du GPS que les données de Galiléo, mais ce n'est pas les données brutes des satellites. C'est qu'il y a un pré-traitement, et ensuite, voilà. Mais les satellites Galiléo ne sont pas compatibles avec les satellites GPS. Le signal Galiléo sera compatible, mais pas les satellites.
Bien, il me reste à remercier Jean-Yves pour être venu ce soir pour cet exposé, d'autant plus qu'il a un agenda extrêmement serré et encore des engagements pour ce soir. Donc merci encore, merci. Jean-Yves. Merci.